Voilà, c'est l'image que j'ai affichée dans mon bureau, juste à l'auteur de mon regard. Chaque jour, je vois un berger qui conduit son troupeau. Et mon petit-fils André m'a dit, « Mais Opa, toi aussi tu es pasteur ?» Je suis brebis, demande-t-il. Je dis, « Ouais, comme ton grand-père. » Voilà, le bon berger. L'Éternel est mon berger. Peut-être on pourrait éteindre le rang ici des lumières. Je crois qu'on verra peut-être un peu mieux. Aujourd'hui, nous allons continuer dans la série des psaumes. Et on va lire probablement le psaume le plus connu dans la Bible, ou ailleurs même. Et ce psaume, il est tellement riche que j'ai voulu le partager en deux parties. Donc, si vous êtes venu aujourd'hui pour la première fois, donc je dirais tant pis si vous ne revenez pas dimanche prochain. Vous êtes toujours invité, mais vous allez voir, il y a suffisamment de matière d'encouragement dans cette première partie, suivie dimanche prochain d'une deuxième. L'Éternel est mon berger. Nous avons chez nous à l'église de lire le texte biblique ensemble. J'ai préparé trois tableaux et le texte qui est affiché, vous le trouverez aussi dans vos Bibles, dans les Bibles aussi qui sont à votre disposition sur le présentoir. Donc, qui aurait envie de commencer à nous lire à haute voix ce premier tableau ?
L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom.
Hop, allez. Voilà. Peut-être vous, madame.
Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe.
Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours.
Voilà ce que dit le psaume 23. L'Éternel est mon berger. L'image du berger, je ne sais pas si vous avez déjà rencontré un, dans la nature, ce sont des personnes, en tout cas, telles que je les connais d'Allemagne, plutôt rustiques, hein, pour rester gentils, pour leur apparence, et bien fort. Et bien sûr, dans la main droite ou gauche, qu'importe, il porte une houlette et bien sûr l'image de Jésus, le bon berger, il porte une petite brebis sur ses épaules. Qu'est-ce que c'est magnifique! Qu'est-ce que c'est romantique, si toutefois c'était vrai. Bien sûr, c'est pas romantique ce métier. C'est un métier assez dur. Ce métier a exclu bien de personnes qui étaient des bergers. Et rappelons-nous Noël, les premières personnes qui sont venues à se mettre à genoux devant la crèche, c'était les bergers, à qui les anges sont adressés en premier. Mais à l'époque, personne n'a voulu avoir affaire avec des bergers. C'était ceux qui rataient l'école, qui étaient toujours bons pour devenir bergers. Hein? Donc si tu n'as pas d'avenir, hein, tu pourrais toujours devenir berger. Voilà. Comment ça se fait que Jésus se compare avec un berger? Et non pas seulement il dit berger, il lui donne une qualité particulière. C'est pas n'importe quel berger, c'est le bon berger. Ce bon berger, il inspire attention et affection. Il m'inspire aussi calme et souveraineté. Il m'inspire repos et confiance. Et il m'inspire aussi force et sécurité. Donc l'auteur de ce psaume, c'est bien dénommé David. Il sait ce que c'est d'être berger, parce que c'était son premier métier avant que Dieu l'a appelé à devenir roi d'Israël. Pour lui, ce psaume est à la fois une image très familière, et en même temps, et vous l'avez peut-être pendant la lecture, vous l'avez remarqué, c'est un témoignage. Ce n'est pas simplement une prière. C'est ce qu'il dirait à quelqu'un en disant « Voilà mon Dieu comment il est !» Voilà mon Dieu comment il est. D'ailleurs, nous avons chanté comme dernier chant, dites-le fort. Un troupeau de brebis, ça fait normalement beaucoup de brebis. Et Imke et moi, nous avons passé le printemps en Allemagne du Nord pendant notre tournée missionnaire. Et on était vraiment dans le nord d'Allemagne, là où tu as, à ta droite, tu as la mer Baltique. Et à gauche, tu as la mer du Nord et les Danois juste au-dessus de toi. Voilà. Et on a mangé dans un petit restaurant très romantique, très rustique. On a mangé des fruits de mer parce qu'on était quand même sur la côte. Et après, on a fait une petite promenade sur la digue. Et vous savez, les digues sont renforcées par les troupeaux qui passent régulièrement pour que la terre soit toujours entassée par les petits pas que les brebis font tout au long de la digue. Et tous les brebis que nous avons vus, et on a vu beaucoup de brebis, ils portaient des numéros avec du spray, tu vois, 13, pardon, il y avait 4 qui portaient du 13, donc une mère et 3 petits, et je ne sais pas quel numéro encore. Et je me disais, bon, pour moi qui n'est pas berger, qui voit là une multitude de brebis, mais comment les distinguer? Je trouve qu'ils sont aussi bêtes que l'autre. D'ailleurs, ce sont des bêtes. Un troupeau de brebis, ça fait beaucoup de brebis. Mais dans le psaume, il n'est pas question d'un berger qui ne regarde que l'ensemble. Il semble qu'il peut passer de la collectivité, du grand ensemble, à avoir l'individu. Bon, il faut bien les connaître, ces brebis, pour les connaître individuellement. Donc, il est question d'une relation personnelle. Il est mon berger, il me conduit. Et le prophète Isaïe pouvait le dire dans chapitre 43, les versets 1 à 5, de cette manière-là. L'Éternel dit... Je t'ai appelé par ton nom. Je te connais. Tu es à moi. Si tu traverses des eaux, je serai moi-même avec toi. Et si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Les flammes ne vont pas te faire du mal. En effet, je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, je suis ton Sauveur. Tu as du prix, ou tu as du grand prix à mes yeux. Tu as de la valeur pour moi. Voilà, je t'aime. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je dirais plus personnel que ça. Ça ne devrait pas exister. N'est-ce pas? Il est le berger de tout un troupeau, mais la joie de la brebis est de pouvoir dire « Il est mon berger ». Es-tu conscient que pour lui, toi, tu comptes personnellement autant que tous les êtres humains qui peuplent la terre, ce grand troupeau? Tu as une valeur particulière. Le berger connaît chacun de ses brebis. Il la connaît par son nom. C'est Jésus, en se comparant avec ce bon berger en Jean chapitre 10, il dit en verset 27, « Mes brebis, écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Bon, nous sommes plusieurs parents, hein, n'est-ce pas, dans la salle. Dès que nos enfants... trouvent une petite autonomie, en général, qui vont à la crèche, à l'école. Qu'est-ce qu'on leur donne comme comme conseil quand il quitte la maison. Tu ne vas pas aller avec une personne que tu ne connais pas. Tu ne vas pas accepter ni bonbons ni sucreries. Tu ne vas pas suivre des personnes que tu ne connais pas. Vous l'avez fait ? Nous l'avons fait, n'est-ce pas ? Je les connais et elles me suivent. Malgré leur ressemblance, le bon berger sait distinguer l'une de l'autre. Il connaît le caractère de chacune d'elles. Il connaît l'état dans lequel chacune se trouve. Il sait de quoi chacune a besoin et quel type de traitement il faut appliquer à chacune pour son bien. Traitement de tendresse. Si je peux me dire traitement. Signe de douceur. Mais aussi de discipline et, voilà la houlette, n'est-ce pas ? De correction. Il aime autant chacune de ses brebis. Aussi s'applique-t-il à donner à chacune d'entre elles ce dont elle a besoin pour qu'elle vive le meilleur de ce qui lui est possible. Être brebis d'un berger, c'est d'avoir fait le choix, en tout cas dans cette image du psaume, parce que les brebis ne choisissent pas en général leur berger, comme les enfants ne choisissent pas leurs parents d'ailleurs, et vice-versa. Être brebis d'un berger, c'est d'avoir fait le choix de remettre au berger le sort et la destination de sa vie, parce qu'on va le suivre. On va le suivre, le berger. Le psaume dit, avec l'Éternel pour berger, je ne manquerai de rien. Je ne peux être en de meilleures mains, plus choyé et aimé que je ne le suis dans les mains de l'Éternel. Voilà mon choix. Pourtant, il nous arrive que nous nous plaignons de notre sort, que nous sommes insatisfaits, que nous nous sentons frustrés, nous témoignons parfois même contre notre Dieu, qu'il est pour nous, qu'il n'est pas pour nous le bon berger qu'il prétend d'être dans sa parole. Vous avez connu de tels moments dans votre vie où vous étiez dans l'incompréhension totale de ce que votre bon berger vous dit, comment il vous conduit, par quoi il vous fait passer, et tu dis, mais qu'est-ce que tu fais avec ma vie? Où se trouve le problème dans ces moments-là? L'auteur David le sous-entend. Ce n'est pas un problème du berger, mais plutôt des brebis. Un problème de regard, un problème d'écoute, un problème de volonté et déjà un problème de sens de liberté. Et bien sûr là, nous sommes plus dans la bonne direction, sous la bonne houlette du berger. Voilà deux sources possibles pour ces moments où on se trouve, on se considère mal accompagné. Une première source possible pouvait être notre rébellion. D'ailleurs, un berger court toujours derrière quelques brebis. J'ai même peur que ce sont toujours les mêmes. C'est notre rébellion. Nous n'acceptons pas le chemin par lequel le berger nous fait passer. Et parce qu'on n'est pas bête, on cherche d'autres chemins. Une deuxième source possible pouvait être notre incrédulité. Nous ne croyons plus qu'il a vraiment notre sort entre ses mains. Dieu, j'ai l'impression que tu perds un peu le contrôle. Et voilà, on ne se sent pas vraiment aimé. Parce qu'on a perdu la proximité, la compréhension, le toucher. Aucun berger, si bon soit-il, ne peut apporter à ses brebis des bonnes choses si les brebis ont des mauvaises dispositions de cœur, si je peux me permettre de le dire comme ça. Si une brebis a des mauvaises dispositions du cœur, le berger peut être aussi bon qu'il veut être, il n'y a plus de communion. L'image du bon berger dans le Nouveau Testament, c'est Jésus lui-même qui se dit être le bon berger de nos vies. En Jean chapitre 10, les versets 10 et 11, nous lisons « Moi, dit Jésus, je suis le bon berger. Je suis venu pour donner la vie aux brebis, une vie surabondante. » Pour ceux qui choisissent Jésus pour être leur bon berger, Jésus leur donnera une vie nouvelle. C'est là la promesse. Une vie spirituelle nouvelle. Spirituellement renouvelée, on pourrait dire. Une vie riche en expérience avec notre bon berger. Non pas une vie exempte des difficultés ou de souffrances. Ni une vie toujours facile qui se passe comme sur des roulettes, mais une vie riche en communion avec lui, plein de sens, une vie plein d'amour et surtout plein d'espérance. Dans ta vie, tu seras malade, dans ta vie, tu seras en chômage, dans ta vie, tu seras seul, dans ta vie, tu es pauvre. Mais jamais tu seras dans ta vie en manque. En manque de communion avec le bon berger qui t'aime, qui a des meilleures intentions pour toi, qui connaît le chemin et surtout qui a une destinée pour toi et ta vie. Dans ta vie, combien de fois tu diras, ou tu as déjà dit, j'en ai assez. Il y a des personnes dans la salle qui l'ont dit, j'en ai assez. Et là, vous dites vrai. Vous dites vraiment vrai. Parce que c'est exactement ce que Jésus voudrait vous donner pour avoir assez. Pour dire avec reconnaissance, j'en ai assez. Oui, tu changes un peu la tonalité de cette phrase. Et ça change du « j'en ai marre » au « mais à combien Jésus me comble des bienfaits ?» Donc moi, je dis très souvent « j'en ai assez » et je le dis avec reconnaissance, avec un sourire. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible et il me redonne la force. C'est le premier bienfait dont jouit la brebis qui a l'Éternel pour berger. C'est le repos et c'est l'abondance. Je vous rappelle encore une fois les paroles de Jésus. Moi, je suis le bon berger. Je suis venu pour donner la vie aux brebis, une vie surabondante. Une vie de repos. Donc, nous sommes tous en phase repos, hein. Tu es en vacances ou pas en vacances, nous sommes en août en France, hein? C'est calme, hein? On travaille un peu, ou encore moins, ou on profite des vacances. C'est un état, le repos, où une personne ne peut pas être troublée par quoi que ce soit, ou être dérangée. C'est une paix profonde, c'est tranquillité. Mais c'est aussi d'être sûr et d'être assuré. Des moments de calme, des moments de détente, des moments de repos. Savoir se reposer sur quelqu'un dans les moments où le... Se reposer sur quelqu'un dans les moments où le, dans ta vie. Dieu merci pour la personne que tu as mis à mes côtés. Hein. Trouver une personne qui... est pour moi une source de calme bien reposante. C'est aussi l'image que Jésus utilise lui-même en disant « Venez à moi, tous qui vous êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Matthieu chapitre 11, verset 28. Je vous donnerai du repos, vous trouverez du repos. Comment vivez-vous votre vie chrétienne? Vous la trouvez plutôt difficile, parfois surhumaine, hors de portée de vos possibilités? Si tel est le cas, c'est que, en grande partie, nous ne la vivons pas à partir du repos que procure notre Seigneur. Nous sommes agités par nos préoccupations. Parce que nous sommes à la direction d'une situation que nous croyons infaisable, insupportable, et on devrait se débrouiller nous-mêmes. En général, si nous vivons des moments tels, nous avons quitté, nous ne sommes plus dans le repos que l'Esprit de Dieu voudrait nous donner. Nous voulons faire des choses par notre propre capacité, par notre propre force. Quand même, on va y arriver tout seul. Ce que devrait nous dire le psaume, ce n'est pas nous, mais c'est lui, l'Éternel, qui est à la base de toutes nos ressources, qui nous sont nécessaires pour pouvoir le suivre et poursuivre notre vie. Avant d'être une marche, avant d'être un travail, la vie chrétienne devrait être un repos. Un repos qui commence par faire confiance et se confier au bon berger. Le repos, en plus, dans l'abondance. Le premier bienfait expérimenté par celui et par celle qui a choisi Jésus pour bon berger. Et puis, le psaume continue à dire, le bon berger, il restaure mon âme. C'est le deuxième bienfait du psaume qu'expérimentent ceux et celles qui ont l'Éternel pour berger. C'est la restauration de nos âmes. Si la foi en Dieu est essentielle pour entrer dans le salut que Jésus nous procure, autant la restauration de notre âme est primordiale pour en vivre et en expérimenter la puissance. Le salut d'être sauvé par Jésus, c'est une chose, c'est le commencement. Nous rentrons dans une nouvelle réalité, dans une nouvelle relation. Après vient la réparation de tout ce que nous avons emmené dans cette nouvelle vie. La restauration de notre âme. Nos paroles peuvent certes témoigner de notre salut que nous avons expérimenté, mais ce sont nos âmes restaurées qui le manifestent encore mieux. Parle toujours, n'est-ce pas? Parle toujours. Parole, parole. Je crois qu'il y a même un chant en français. N'est-ce pas? Voilà, il y a des personnes d'une même génération dans la salle, n'est-ce pas? Mais les paroles, qu'est-ce que les paroles? Ça peut être aussi des paroles en l'air, ou qui peuvent être reçues comme des paroles vides. Mais une vie restaurée, regarde ce que Jésus a fait dans ma vie. Écoute, au lieu de m'écouter, regarde-moi. Regarde la personne que je suis devenue grâce à mon âme que l'Éternel a restaurée. Voilà, c'est aussi notre puissance dans notre témoignage. Une âme restaurée, c'est une âme reconstruite. Une personne guérie, délivrée des traces et des effets de la ruine de sa ancienne vie. Délivrée des traces et des effets des ravages qu'a opéré le péché, qu'a opéré le mal dans notre ancienne vie. N'oublions pas que le, n'oublions pas que si le salut que Dieu donne par Jésus est immédiat, au moment où nous nous tournons de tout notre cœur vers lui, dès que nous le recevons par la foi, la restauration de notre âme, quant à elle, exige du temps. Vous avez remarqué ? Devenir un enfant de Dieu, rentrer dans la famille de Dieu, ce n'est pas un claquement de doigts, mais bien par un assemblage de doigts. N'est-ce pas ? Je prie Dieu à ce que je puisse devenir son enfant, à ce que ma vie antérieure puisse être pardonnée. Avec la promesse que je voudrais le choisir comme mon Seigneur, comme mon berger, que je voudrais suivre. Et je le remercie pour le salut qu'il m'a accordé. À ce moment-là, tu fais partie de la famille de Dieu. Bienvenue d'ailleurs. N'est-ce pas? Quant à la restauration de notre âme, c'est à partir de ce moment-là où ça commence. Et ça prend le temps nécessaire que le Seigneur voudrait bien nous accompagner, nous conduire. Et pas par pas, notre âme se restaure. Parce que nous le suivons. Il est notre bon berger. À mon sens, la restauration de notre âme nécessite deux choses. Du côté du cœur, commençons là. La restauration de notre âme nécessite la volonté de vouloir suivre Jésus. Ce n'est pas dans son périphérique que tu trouves la restauration dans son âme. Tu le trouves dans le corps à corps, de le suivre de près, de l'écouter, de la communion que tu as avec lui. Le fait que tu t'attaches véritablement à ton bon berger, que tu t'attaches pleinement à lui. C'est la première nécessité pour que nos âmes puissent être restaurées. Et puis, du deuxième côté, et on parle là de la distance, probablement la plus importante qui existe dans l'univers entier. Vous connaissez la distance la plus importante qui puisse exister dans l'univers entier? On dit à peu près, ça dépend, de 40 cm. Tu dis 40 cm par rapport à l'univers, tu ne devrais même pas à une distance à 40 cm quand tu regardes l'univers. Non, c'est la distance qui est difficilement à parcourir parce que c'est exactement ce qui distancie notre cerveau, notre intelligence par rapport à notre cœur. Ah, j'entends les petits rires en disant oui, je sais, mais je ne sais pas faire. N'est-ce pas? C'est exactement ça. Je sais, mais je ne sais pas vivre. Je sais, mais je ne sais pas croire. Je sais, mais je ne sais pas faire confiance. Voilà la distance entre le cérébral qui fonctionne, Dieu merci, hein, ça, quelque chose fonctionne dedans, voilà. Mais le cœur et notre intelligence vont avancer de pair. D'ailleurs, c'est l'apôtre Paul qui va le formuler de cette manière-là. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Et je lis là de la version Parole vivante. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent au siècle présent. Ne copiez pas les modèles et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement vous transformez par le renouvellement de votre mentalité, intelligence, n'est-ce pas? Apportez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées, qu'est-ce qu'on doit donner à nos pensées? Une nouvelle orientation, afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui est parfait et agréable. Voilà le renouvellement de notre âme qui passe à la fois par le cœur et par notre intelligence. La restauration de notre âme nécessite un renouvellement profond, un apprentissage inévitable de la découverte des points de vue, mais cette fois-ci nouveaux, sur ce qui est jusqu'au jour, ce qui nous a formés, ce qui nous a formés nous-mêmes, ce qui a formé notre vie passée, et ce qui est propre à notre guérison, à se forger une nouvelle opinion sur Dieu, une nouvelle opinion sur nous-mêmes, pour nous donner une identité qui répond à l'image du bon berger. Beaucoup d'opinions que nous nous sommes faites sur Dieu, que nous sommes faites sur nous-mêmes et sur notre propre identité, les amis, peuvent bien être faussées. Une opinion, ça reste une opinion. Quand on dit, c'est ton opinion. Hein? Voilà. Peut-être as-tu entendu toute ta vie que tu ne vaux rien, que tu es nul. Qu'est-ce que ça fait avec toi? Qu'est-ce que cela a fait avec toi? Tu ne vaux rien. Tu es nul. Ce jugement permanent sur toi a laissé des traces et a forgé ta personnalité. Tu regardes dans la glace et tu vois une personne qui ne vaut rien, qui est nulle. Pour la restauration de notre âme, Dieu va t'aider à prendre d'abord confiance en lui pour retrouver confiance grâce à lui pour toi-même. Peut-être des choses dont tu te croyais jamais capable, Dieu va te rendre capable. Et tu vas dire, avec Dieu, je suis plus nul. Avec Dieu, je pourrais même tout. Peut-être tu as été élevé dans le culte de la réussite. C'est tout le contraire, n'est-ce pas? Tu as alors acquis l'idée que seuls ceux qui sont bons, qui sont intelligents et qui sont forts, donc à peu près moi, hein? C'est une opinion. Mais on vous a appris que vous êtes une personne d'exception. Et il faut être exceptionnel pour pouvoir réussir sa vie. C'est horrible. C'est horrible. Lors de la restauration de notre âme, Dieu va t'aider à apprendre que l'échec fait partie de ta vie. Mais pour y rebondir, ne pas y rester, ni te couler. Tu comprendras alors que ce qui fait ta beauté, ce qui fait ta sagesse ou ta force, ne vient pas de toi-même, ne doit pas venir de toi-même, mais qui t'est donné par le bon berger, qui est en train de restaurer l'opinion que tu as sur toi-même. Restauration de ton âme. La Bible le compare avec un vase dans lequel est caché un trésor. Et ce trésor, dit l'apôtre Paul, nous le portons dans les vases faits d'argile que nous sommes, pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste. Et ce n'est pas notre propre capacité qui arrive à faire cela. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Donc le renouvellement de nos âmes par notre bon berger divin nous permettra de faire la part des choses entre ce qui est notre propre responsabilité dans les blessures de notre âme et que sont des mauvaises réactions de nos propres fautes commises. Et ce qui révèle du mal commis par les autres sur nous, des abus, des mensonges, des violences que nous avons subies. Et sur la base de ce discernement, notre âme peut alors, avec les ressources nouvelles que le bon berger nous donne, agir cette fois-ci, ou de nouveau, ou pour la première fois, de la bonne manière. manière et appliquer les bons remèdes au bon endroit. Par notre pardon envers l'autrui qui nous a offensés, d'ailleurs vous vous rappelez cette phrase dans la prière que Jésus apprend à ses disciples, pardonne-nous nos péchés, et puis la suite qui franchit parfois difficilement nos lèvres, parce qu'il y a la souffrance et le souvenir, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. J'aimerais bien conclure cette première partie de ce psaume 23. Vous avez remarqué, moi je suis grand fan du bon berger. Je suis bête, mais je suis une brebis, bête parfois, souvent, mais qui a décidé dans son cœur de vouloir suivre le bon berger. Je ne connais pas d'autres. J'ai comparé d'autres, mais je ne connais pas quelqu'un comme lui. C'est un véritable privilège à mes yeux d'avoir l'Éternel pour berger de ma vie. Un berger qui nous connaît personnellement. Un berger pour qui le bien-être de chaque brebis compte individuellement autant que le bien-être de tout son troupeau. Un berger qui a le pouvoir de pourvoir à tout moment ce dont chacun de nous a besoin. Un berger qui veut nous apprendre à vivre notre vie à partir du repos, à partir de l'abondance, par des ressources qu'il nous donne. Un berger qui peut, en nous accompagnant, restaurer et guérir notre âme de toutes les blessures, de toutes les déformations et maladies que le péché a occasionné dans notre vie. Pour cela, je termine en disant « Bénissons l'Éternel, notre berger. » Si tu voudrais te confier ce matin à ce bon berger, pour des raisons qui te sont personnelles, parce que tu as décidé de vouloir le suivre, ou de le suivre de nouveau, ou parce que tu as besoin que ton âme soit restaurée, je t'invite à la prière.